Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, je ne vais pas inventer quelque chose dont on ne ressent pas.
T'as une tête tout de droite, t'as clouc. Pour les photos.
Et ben, on n'a pas la lune.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After sur RMC, 21h avec Coach Courbis et Walid Acharchour, avec un gros fil rouge, la fin des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool, Napoli, Eintracht Francfort, avant d'accueillir Maxime Thiette, notre correspondant à Nice, et avant ce duel entre Nice et le Sheriff Tiraspol demain en Ligue Europa Conférence, le coup d'envoi des matchs, bien sûr, on commence par le stade Santiago Bernabéu, avec Jeannot Rességuier. Jeannot, à l'instant, poignée de main, Karim Benzema, avec le corps arbitral de la soirée.
Oui, avec donc le protocole, Milner d'un côté, Benzema de l'autre, et Félix Zweier, arbitre allemand, Real Madrid, avec Courtois, Rudiger, Militao, Nacho et Carvajal sur les côtés de la défense, Camavinga, Kroos, Modric au milieu de terrain, Vinicius et Valverde pour accompagner Benzema en attaque. Pour ce qui est de Liverpool, une équipe offensive avec Alisson dans les buts, Alexander Arnold côté droit, Robertson à gauche, Konaté, l'international français, avec Van Dijk pour la charnière, Fabinho avec Milner pour le milieu récupérateur relayeur, Diogo Jota pour accompagner le trio offensif Salah, Nunez et Gakpo. Voilà, le défi est peut-être impossible, mais en tout cas ils vont tenter le tout pour le tout. Klopp l'a évoqué en conférence de presse. Liverpool battu 5-2 à domicile lors du match aller, et ce sont eux, les Reds de Liverpool, qui vont donner le coup d'envoi. Voilà, c'est parti, avec le coup d'envoi donné par Salah directement derrière pour un premier ballon sur Konaté, qui va essayer d'alerter à gauche rapidement Nunez. Le ballon ira directement en touche.
Ah, tout à l'heure, Jeannot, c'est parti également entre le Napoli et l'Eintracht Francfort, et un tiers saint.
Ouais, depuis 30 secondes, 0-0, les Napolitains qui peuvent se qualifier pour la première fois de leur histoire en quart de finale de Ligue des Champions, et ce serait mérité avec cette magnifique équipe, hein. Osimhen, Varane, il y a peut-être la première occasion là pour les Napolitains. Justement, le ballon est repoussé par la défense allemande. Il manque Randal Kolo Muani, expulsé lors du match aller. Pas Jesper Lindstrom non plus du côté de Francfort, qui doit marquer donc au moins deux buts pour, attention, la première frappe de Zielinski, qui est repoussée par Kevin Trapp, la frappe de Kvaratskhelia contré par Aurelio Buta, le latéral droit de Francfort. Ce sera un premier corner ici au stade Diego Armando Maradona. Une minute de jeu, les Napolitains qui mettent déjà les Allemands en difficulté, 0-0, donc 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. La victoire des Italiens, c'était à la Deutsche Bank Arena en Allemagne.
Le corner qui me conçoit avec toi, mon cher Aurélien,
ouais, de la gauche vers la droite, il y a Victor Osimhen évidemment dans la surface de réparation. On attend le coup de pied soit de Zielinski, le Polonais, ou de Mario Rui, le Portugais. Ce sera le pied gauche du Portugais, dégagé de la tête par la défense de l'Eintracht. Deuxième chance peut-être avec sur le côté droit Matteo Politano, qui n'était pas là lors du match aller. Le relais avec Franck Anguissa, okay. Le ballon est perdu. Deuxième minute de jouer, donc 0-0, mais énorme avantage pour les Napolitains qui l'avaient emporté par deux buts au match aller.
Demain soir, 21h, l'OGC Nice, dernière chance française en Europe, 8e retour de Ligue Europa Conférence contre le Sheriff Tiraspol. Nice l'avait emporté la semaine dernière 1-0 sur la pelouse du Sheriff. Le gym a-t-il les moyens de viser très haut cette saison en Ligue Europa Conférence? Vous nous appelez au 32-16, supporters niçois. On va en parler, en débattre avec Coach Courbis et également Walid Acharchour. D'abord, j'accueille Maxime Thiliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Salut Maxime.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Maxime.
Quelles sont les dernières infos? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que le groupe sera quasiment au complet demain?
Alors, pas forcément totalement au complet, parce qu'il y a toujours quelques petites absences, notamment celle de Youssef Attal qui a re-shooté au niveau des ischios. En revanche, une bonne nouvelle, c'est le retour de Nicolas Pépé. Il va être précieux dans ce sprint final que les Niçois abordent, avec notamment ce match, eh bien, demain soir. Nicolas Pépé qui a manqué les deux derniers mois, hein, tout de même de compétition. Il n'a joué qu'un petit match sous les ordres de Didier Digard, qui a pris les commandes de cette équipe. Donc, c'est un retour de taille. Sinon, eh bien, on aura un effectif quasi au complet pour Didier Digard, mis à part l'absence d'Antoine Mendy, le jeune latéral droit qui est toujours diminué au niveau de la cheville.
Est-ce que t'as une compo probable
aussi, non?
Ouais. Oui, Sofiane Diop, bien sûr, ouais. Évidemment. Qui est,
apparemment, c'est un peu plus grave que prévu en plus.
Bon, alors, ouais, ce n'est pas Didier Digard qui est venu en conférence de presse aujourd'hui, mais son adjoint Julien Sablé, hein, Maxime, hein, parce que le numéro 1 ne pouvait pas.
Oui, c'est ça. C'est en Coupe d'Europe, en fait, l'UEFA a certaines règles. Il faut que un nouvel entraîneur diplômé soit présent 2 mois après le départ de son prédécesseur. Et là, les 2 mois sont passés, ce qui fait que Didier Digard a pu assumer toutes ses missions habituelles, notamment devant les médias. La semaine passée, il a pu le faire en Moldavie. En revanche, cette semaine, c'est Julien Sablé qui lui a le diplôme, le BEPF, qui a pu donc se présenter face à nous en conférence de presse.
On va l'écouter justement. Julien Sablé, la question lui a été posée. Est-ce que d'être le dernier club français encore en lice en Europe ajoute de la pression? Écoutons sa réponse.
Non, ça rajoute pas de pression. On est concentré, encore une fois, la vérité ne ressortira que du terrain, et on est concentré sur nous, et on sait que ça bénéficiera au football français dans un deuxième temps. Mais bon, les paroles, ça s'envole, là, place aux actes, et de sortir une grande performance dans, j'espère, un stade plein pour pousser le gym.
Est-ce que le gym a-t-il les moyens de viser très haut en Ligue Europa Conférence, messieurs, coach et Walid? On en débat ensemble, et vous aussi au 32-16, supporter niçois. Je rappelle quand même les derniers gros, entre guillemets, engagés encore en 8e de finale, Villarreal, 6e de Liga, West Ham, 17e de Première Ligue, pour moi un gros quoi.
Villarreal, 6e de Liga, tu peux pas t'arrêter à ça, Nico.
Pourquoi?
Demi-finaliste de Ligue des Champions l'an dernier.
Oui, ok, tu vas remonter. Ils ont gagné de la fin du moment.
Et ils ont gagné la Ligue Europa l'année d'avant contre Manchester United. On parle quand même d'une équipe qui est en Europe. Et...
Chevronnier expérimenté qui connaissait les hauteurs d'une Coupe européenne. Bon, là-dessus aussi est présente, mais attention, elle a perdu 2-1 contre Alkmaar au match aller. La Fiorentina, 11e de Serie A. Votre avis là-dessus, messieurs, est-ce que Nice a. Parce que je sais qu'à Nice, on a l'ambition, on va parler avec toi, Maxime, dans un instant.
West Ham aussi qui est encore.
Je l'ai dit, ouais. Si tu regardais pas trop le match et que tu m'écoutais, tu l'aurais su.
D'accord, Nico.
Alors, moi, non, qu'est-ce que Nice doit viser?
Moi, je vais être prudent. Je vais être prudent parce qu'encore une fois, avec les clubs français sur les dernières semaines, il faut l'être, et parce que l'équilibre de Nice est encore fragile. Bien évidemment, qu'ils font du très très bon boulot, qu'ils sont sur une très très bonne dynamique, que Didier Digard a montré que dans le management et puis même dans sa capacité à impulser quelque chose pendant les matchs avec une équipe qui répondait totalement à ce que demandait l'adversaire. On l'a vu contre Monaco, contre Lens, contre Lille, contre l'Olympique de Marseille notamment. Maintenant, on va attendre ce qui va se passer demain soir, et puis après il y a quand même des équipes qui sont pour moi un peu plus outillées en termes d'expérience et même en termes de qualité de joueurs. Tu viens de les citer, même si attention, Nice doit avoir de l'ambition. Ils ont des joueurs très intéressants, de l'expérience mélangée à de la jeunesse. Mais moi, je vais rester quand même prudent. Je peux pas venir sur le plateau aujourd'hui et te dire, Nico, Nice doit prétendre à la gagne, parce que pour moi, ça reste encore fragile. Ça reste une dynamique qui est fragile, et pour moi, Nice doit y aller étape par étape. Après, ça veut pas dire, bien évidemment, qu'elle ne doit pas avoir d'ambition.
J'accueille Patrick au 32-16, ouais. Supporter de GC Nice. Salut Patrick.
Bonsoir l'équipe.
Salut Patrick.
Tu as écouté les propos pleins de sagesse de Walid.
Bonsoir. Bah, écoutez, le match de demain, je vois qu'on va passer quand même tranquillement, parce qu'au vu du match aller sur une pelouse qui était plus un terrain de sable qu'autre chose, sur un coup du sort, on a quand même pu mettre un but, donc demain, ça devrait passer. En revanche, pour les tours suivants, il y a quand même 4-5 gros morceaux. Même si nous, on est quand même, on n'est pas un faire-valoir, on va faire valoir nos droits. Cependant, j'ai une crainte que si on tombe sur des équipes avec un bloc bas, on n'est pas encore en capacité de faire de jeu pour percer, pour aller de l'avant. Par contre, comme on a fait à Lens, comme on a fait à Marseille, comme on a fait à Monaco, si nous on joue en bloc bas, ça peut être différent.
Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'un bloc bas, Nice. C'est un bloc bas, bien évidemment, mais à la ressortie du ballon, c'est quand même très intéressant. Il y a des joueurs au milieu de terrain qui, techniquement, sont capables d'annihiler un pressing. Je pense à Boudaoui qui est en train de prendre une grande dimension. Oui. Je pense à Geoffrey Thuram, notamment.
Oui.
Donc, ce qui est intéressant.
Mais la construction, moi je parle de la construction.
Oui, là, tu as raison d'insister là-dessus, c'est qu'on l'a vu contre Auxerre, on l'a vu contre. Il y a un autre match aussi contre Reims, contre Ajaccio aussi, où même si ça fait 3-0, je trouve que le score est un peu boursouflé. C'est vrai que ça va être la prochaine étape de Didier Digard, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose quand les équipes vont attendre Nice, parce que il y avait cette surprise du Nice d'Odigard. On savait pas très très bien comment les aborder. Là maintenant, je pense que les adversaires auront un peu plus de matière. Maintenant, attention, parce que les grosses équipes dont on cite tout à l'heure, peuvent être piégés par Nice avec un bloc bas. Donc en fait, c'est finalement, on sait pas trop où se situer avec Nice. C'est pour ça que je marche un peu sur des œufs sur la question de Nico, ouais. Moi.
Ça c'est aussi une qualité de notre coach, hein. Il brouille les plans un petit peu à chaque rencontre, hein. Bien que il nous manque quelqu'un au milieu pour diriger le jeu, pour l'orienter. Il nous manque un vieux numéro 10 comme ça se faisait à l'époque, hein. Je pense que ça nous manque.
Coach, comment tu juges cette OGC Nice-là sur la scène européenne? Je sais qu'ils sont très ambitieux à Nice, on a reçu Dante il y a 3 semaines dans Génération After, qui ne s'empêche aucun rêve cette saison.
Je vois pas les choses comme vous, hein. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai raison.
Tant mieux.
Je vous donne quand même mon avis. Ce qui se passe à Nice avec Digard, c'est tout simplement extraordinaire, je suis le premier à le saluer. N'en demandons pas trop ni à Nice ni à Digard. Si maintenant Nice pense continuer sa remontée au championnat en jouant le jeudi, en voyageant pour aller en Moldavie, et qu'à la fin de la saison il manque un point ou deux pour pas être européen, ben ça sera vraiment dommage. Enfin pour moi. Mais maintenant, oui. En ce qui concerne cette coupe, qu'elle soit considérée comme une coupe d'Europe, oui. Allez, si vous voulez.
C'est oui, c'est vrai que t'as du mal avec la coupe.
Ben, c'est la coupe des villes de foire de l'ancien temps.
Voilà, donc c'est
de respect quand même, les gars.
Non, mais ça s'appelait comme ça, hein, ville de foire.
Oui, je sais bien, mais bon.
Pour un club comme Nice, c'est quand même important.
Coach, rappelle-toi Mourinho quand il gagne la Ligue Europa Conférence, c'est la fête à Rome, c'est la folie. Mais à Nice,
c'est comme ça que tu te crées une histoire européenne.
C'est certainement vous qui avez raison.
Surtout pour Nice,
toi, tu la prendrais pas, toi. Tu serais coach d'une équipe de Ligue 1 aujourd'hui. Tu la disputes, tu la mettrais de côté, quoi.
Mais non, je la mettrais pas de côté. Non. Mais quand par exemple j'aurai le choix entre ma meilleure équipe le jeudi ou le dimanche avec le match de championnat, et que je regarde par exemple que tel ou tel club comme Rennes et tout, ils sont pas si loin que ça, et que là je viens de me faire accrocher 2 fois, oui, je reste invaincu avec 2 matchs nuls, je viens de prendre simplement 2 points sur 6, et bien peut-être que c'est ce calendrier qui m'a fait perdre 2 points. Alors je dis bien peut-être. En ce qui concerne après les risques de blessure, je te dis pas avec la fatigue, si Nice arrive à aller au bout dans cette coupe conférence et être dans les 5 premiers comme je pense que c'est possible, oui. Eh ben je serai le premier à applaudir. Mais si des fois il manque 2-3 points, eh ben on ira les chercher peut-être au match du jeudi. Si par contre tu vas jusqu'au bout et que tu la gagnes, puisque tu me fais la comparaison avec ceux qui l'ont gagné, eh ben à ce moment-là, c'est moi qui aurais été trop prudent. Eh ben désolé d'être trop prudent.
Moi je trouve Roland Courbis très prudent, hein, Nico. Mais trop prudent. Parce que non, en fait, l'histoire que nous raconte l'OGC Nice cette saison, c'est que ils ont été très très vite décrochés pour l'Europe. Notamment avec ce début de saison sous Favre.
Et les 10 premiers matchs, ça a été catastrophique.
Hein. Notamment, donc aujourd'hui, il y a quand même des équipes, notamment Rennes et Lille, hein, même Reims, qui sont en capacité d'aller jouer cette 5e place. Donc, pour moi, si j'étais à la place de Nice, surtout Nice, parce que Nice, alors moi j'ai 29 ans, donc je parle sous le contrôle de toi, Nico, et Roland, et même de notre auditeur, c'est que Nice a très très peu d'histoire européenne.
Bien sûr.
Moi j'ai oui. Voilà, je
ici. Donc moi j'ai vu un magnifique Nice Kilmarnock, je passe en dessous, Patrick.
97 oui, 98.
J'étais au stade.
Ouais. Non, mais moi
97, ouais, moi, me dis pas, hein, pas 77.
Moi, j'ai très peu de d'épopées niçoises qui me reviennent, donc sûrement ça n'a pas existé. Donc cette équipe là et ce club là a une opportunité, ils peuvent être en quart de finale de Conference League. Quart de finale.
Youpi.
Coach, je crois que tu mesures pas quand les supporters niçois se peuvent représenter. Mais oui, alors
Roland,
peut-être que c'est fabriqué artificiellement, certes, mais en tout cas l'émotion elle est là aujourd'hui. Et je pense que Patrick à Nice, quand on parle avec tes potes, vous imaginez un parcours peut-être. Toi t'es pas hyper confiant pour aller jusqu'au bout, mon cher Patrick.
Non.
Mais t'es en quart de finale.
Comment tu vivrais ça si Nice jouait une finale de Ligue Europa Conférence?
Tu te rends compte, Wally, à la fin de la saison, quand tu feras le bilan avec tes potes au bar en train de boire la purée. On a été en quart de finale.
On dit qu'en quart de finale, tu dois pas être prudent et tu dois y aller jusqu'au bout. Entre un quart de finale de Conference League et tes sixième, septième, parce que ton raisonnement, ton fameux raisonnement, Roland, que je respecte totalement, mais tu peux pas jouer toute la fin de saison à 15, 16 joueurs en essayant de faire une équipe de 8 joueurs à chaque fois et de changer un joueur ou deux par ligne pour essayer d'avoir tout le temps une équipe compétitive. C'est pas possible pour Nice.
Ils ont pas
les joueurs.
Mais c'est possible. C'est d'ailleurs pour ça que mes mains, ils sont prêtes pour applaudir. Il y a plus qu'à s'en servir.
Pourquoi on part tout de suite sur une histoire de défaitisme un petit peu, du truc un peu.
Non, il faut y aller là.
Ouais.
On
va perdre 2 ou 3 points. Eh ben, si Nice, il termine 6e ou 7e cette saison en ayant fait une demi-finale de Conference League, eh ben, on n'en voudra pas à Digger parce que malheureusement, Favre et Nice ont fait un début de saison catastrophique et on les imaginait même pas il y a encore 3 semaines.
Je vais poser la question à Maxime aussi dans un instant.
Arrête, Roland.
Finir 10e et gagner la Ligue Europa Conférence ou finir 5e et échouer en quart de finale à la Ligue Europa Conférence, tu fais quoi toi?
Moi?
Ouais.
5e.
D'accord, et quart de finale Ligue Europa Conférence.
On va finir 5e.
C'est quoi ton dilemme là?
Entre terminer 10e de Ligue 1 et gagner la Ligue Europa Conférence ou terminer 5e de Ligue 1 et jouer en quart de finale de Ligue Europa Conférence.
Mais comment on peut choisir la 5e place?
Remporter la Coupe.
Remporter la Coupe d'Europe, Jean-Patrick. Tu joues une Coupe d'Europe l'année prochaine.
Mais la même chose.
Mais là, tu auras gagné, tu vas la jouer, alors on ira gagner Ligue Europa Conférence.
Mais si tu gagnes la Conférence League, t'étais qualifié aussi.
Patrick, t'étais pas armé pour ce débat, j'ai l'impression.
Mais tu penses que la Roma, ils ont pas joué l'Europa League cette année, la Roma? Ils sont pas en Europa League, ils ont gagné la Conférence League l'année dernière. T'as coup double, t'as le premier titre européen de ton histoire. Mais la 10e place en Ligue 1.
La 3e Coupe d'Europe française de l'histoire.
Mais je sais, mais en fait. Mais
là, même
mais,
si coach, je pense que c'est pas une Coupe d'Europe. Mais bon, voilà.
Coach, t'es d'accord avec ça, coach?
Bah, à mon pied.
Ah, on est en train de convaincre. T'as vu? T'es en train de bouger un peu. Maxime, comment on vit ça à Nice, toi, cette aventure européenne?
On a conscience que la Nice peut quand même atteindre pour la 3e fois de son histoire seulement un quart de finale de Coupe d'Europe. Et les dernières, c'était en 57 et en 60 face au Real Madrid. Donc c'était une autre époque. On est conscient qu'il y a la possibilité d'écrire l'histoire. Alors ce n'est certes entre guillemets que la Conference League, mais Nice va pas cracher dessus, loin de là. Faut être honnête. Après, je me souviens d'une déclaration de Didier Digard avant le match de Nantes ce week-end. Ils ont rentré à peine de Moldavie et il disait que pour Nice, malgré tout, le chemin le plus court vers l'Europe, ça restait le championnat. Parce que les équipes devant n'étaient vraiment pas loin et il y avait la possibilité d'aller les chercher. Après, Didier Digard, honnêtement, il dit ça, mais il a très envie de vivre une belle aventure européenne parce que c'est aussi en vivant ce genre d'émotion, ce genre d'épopée qu'on peut aussi ramener du monde à l'Alliance. On sait que c'est un défi qui n'a pas toujours été évident de créer une dynamique autour de l'OGC Nice. Et c'est vrai qu'une Coupe d'Europe, on l'a vu à Marseille la saison passée. Alors c'est Marseille certes, mais il y a eu un réel engouement autour des rencontres de Conference League. Et à Nice, on peut imaginer que si ça passe ce tour-là, derrière il y aura encore de belles affiches et ça peut créer vraiment quelque chose.
Mais je pose la question, si sincèrement Nice n'est pas européen à la fin de saison, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose après l'histoire qu'on nous a racontée sur les 6 premiers mois?
Ah non, pas du tout. Mais s'ils ne sont pas européens, qu'il leur manque 2 points, je t'expliquerai moi qu'ils ont été perdus ces 2 points.
Oui, mais moi je préfère qu'un club français là joue au fond.
Les 2 points, ils ont été perdus ici à la maison contre Auxerre.
Lors des 11 premières journées, exactement.
Et à la dernière minute contre à Nantes. Hein.
Et puis surtout,
il y a 4 points qui nous filent sous le nez.
Et surtout, je préfère un club français, cette mentalité du club français qui va jusqu'au bout dans ses épopées européennes, que de jouer à l'épicier, comme ce que dit Roland là depuis tout à l'heure.
Appelle-toi Marseille en Ligue Europa.
L'épicier, il te signale qu'il a eu le plaisir d'être sur un banc et de pas être champion parce que il m'a manqué un point et ce point-là, il m'a manqué parce qu'on a joué les matchs tous les jeudis pendant que Bordeaux, ils nous regardaient jouer à la télé.
Tu vois, l'épicier, c'est ce qu'il a dans la réserve. Toi, tu sais pas ce qu'il y a dans la réserve. Ouais, c'est le raisonnement pragmatique de coach. Merci Patrick, j'en fais le 32-16.
Merci à vous l'équipe. Bonne
tu peux
soirée.
Nous rappeler demain pour le débrief de ce match, Nice, chéri Tiraspol. Merci également à toi, Maxime. Bon match.
Il faut battre ce shérif. Là,
ça
nous fera des souvenirs. On était au Far West, il y avait même un shérif. Et ben on l'a battu. Et puis les Indiens, ils peuvent arriver.
Il est bon ce coach. Maxime, merci. Donc tu rencontreras le shérif demain. Écoute,
exactement. À demain.
Bon commentaire à toi et bonne soirée d'abord.
Qui tu rencontres, le shérif?
Roland, tu peux mettre un euro de bonbon, s'il te plaît, Roland.
Allez, les matchs en direct avec des champions, les huitièmes de finale retour, le Stade Santiago Bernabéu, Real Madrid, Liverpool. Jeannot Rességuier.
17 minutes de jeu, 0-0, 5-2 pour le Real, toujours sur l'ensemble des deux matchs. Deux pertes de balles en début de match. Sixième minute pour le Real, Benzema, Rudiger qui n'est pas bien positionné. Et ça a failli profiter à Salah, puis pour Nunez et l'arrêt de Courtois du bout des crampons. Deux minutes plus tard, même système, perte de balles de la part de Liverpool. Alors que là, il y a un ballon dans la surface de réparation qui vient de la droite avec Salah et imprécision derrière de la part de Diogo Jota. À la huitième minute, perte de balles de Liverpool. Benzema, Vinicius, décalage avec Kroos et la passe en retrait n'est pas bonne. Milner peut sauver la baraque et la grosse, grosse occasion, elle est pour le Real Madrid à la 14e minute. Rudiger sur un ballon venu de la droite qui remise de la tête au deuxième poteau. Vinicius est à deux doigts d'ouvrir le score alors que Alisson Becker se demande encore comment il a pu détourner cette balle sur son propre poteau.
L'autre match également entre le Napoli et Francfort, Aurélien Tiersin.
0-0 après 18 minutes de jouer et c'est Kvaratskhelia qui a la clé. Clairement, on l'attendait évidemment, le Géorgien, dès qu'il accélère, il fait très très mal à cette équipe de Francfort. Pied gros, pied gauche, pied droit, pardon, le corner quand même avec le point de Kevin Trapp. C'est repoussé à l'entrée de la surface, la reprise de Mario Rui, elle est un peu écrasée, c'est dégagé par la défense de Francfort qui a quand même eu 10 bonnes premières minutes avec notamment à la 6e Mario Götze qui rate une reprise qui paraissait facile à 2-3 mètres des cages d'Alex Meret sur un beau service de Raphaël Boré. Mais là, dès que Gvisha Kvaratskhelia accélère, il fait des 1-2, des doubles 1-2, des triples 1-2. Alors évidemment, il a des coéquipiers autour de lui, Victor Osimhen qui est très solide, Mario Rui qui fait un bon match aussi dans le couloir gauche. Mais Kvaratskhelia, il a déjà frappé deux fois au but et on sent qu'il a toute la latitude pour faire très mal à cette équipe de Francfort qui a toujours deux buts de retard donc dans cette partie. 20e minute, 0-0 au stade Diego Armando Maradona.
Dans un instant, l'équipe de France, la liste, la première liste post-Coupe du Monde de Deschamps, elle a attendu. Il y aura peut-être des surprises, on en parle avec Coach Courbis, Wade Cherchaud, et on profitera bien sûr de la présence de Jeannot Rességuier, notre homme qui suit l'équipe de France depuis maintenant. Je ne sais même pas le dire. Restez avec nous. À l'instant, Jeannot, une grosse phrase de Kamavinga d'ailleurs.
Oui, à l'entrée de la surface de réparation, Kamavinga qui sera certainement sur la liste de Didier Deschamps qui tente sa chance. La balle est un peu flottante et elle finit sur la transversale du but d'Alisson Becker. Ça va être compliqué pour Liverpool s'ils ne mettent pas au moins un but sur la première période parce que là, pour l'instant, ils ne se montrent pas très très dangereux. Au contraire, à l'inverse, c'est le Real qui a les plus grosses situations.
Ah, tout à l'heure, Jeannot, on parle des Bleus dans un instant, la liste de Deschamps qui va tomber demain à la mi-journée. Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC.